Aujourd'hui donc, le dialogue moléculaire des symbioses par le monsieur le professeur Jean Denarié. Donc monsieur Denarié est né le 26 octobre 1940, il est généticien, spécialiste des relations plantes-micro-organismes et à ce titre, il est directeur de recherche au laboratoire de biologie moléculaire des relations plantes-micro-organismes CNRS-INRA. En 1994, il a été élu membre de l'European Molecular Biology Organization, l'EMBO, qui est une académie européenne de biologie moléculaire, dont font également partie des conférenciers que vous avez déjà pu entendre, à savoir, par exemple, François Jacob ou Antoine Danchin. Outre de nombreuses publications spécialisées qu'il a réalisées avec son équipe, il a également publié dans des magazines comme La Recherche, et a sorti en 1994, a dirigé plutôt en 1994, un ouvrage collectif sur la fixation biologique de l'azote. Monsieur Jean Denarié, vous avez donc 50 minutes pour exposer votre conférence, après quoi il y aura le débat. Je vous remercie.
Merci pour cette introduction. Alors, au cours de cette conférence, je vais vous parler... Première diapo, s'il vous plaît. Oui, je vais vous parler donc des symbioses associant des plantes avec des bactéries fixatrices d'azote. Je vais vous parler des bases génétiques et moléculaires qui permettent l'établissement de ces interactions entre les deux partenaires et des perspectives concernant l'utilisation de ces symbioses. Or, tout d'abord, je voudrais vous rappeler l'importance de la fixation biologique d'azote dans le cycle de l'azote. Alors, en fait, pour l'azote, il y a une espèce de paradoxe, c'est que l'azote moléculaire N2 correspond à peu près 80% de l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est une réserve illimitée. Or, l'azote est un facteur limitant majeur de la croissance des végétaux, et donc des animaux. Or, ce paradoxe est dû au fait que les organismes supérieurs sont incapables d'utiliser l'azote atmosphérique, N2, qui est une molécule peu réactive, très stable. Seules quelques bactéries, dites fixatrices d'azote, sont capables de réduire l'azote moléculaire N2 en ammoniac. La fixation biologique de l'azote joue un rôle essentiel, puisque sans fixation biologique de l'azote, il n'y aurait pas de vie possible sur la planète, en fait. Et depuis quelques décennies, outre la fixation biologique, s'est développée une industrie chimique de synthèse des engrais azotés. Malgré le développement de l'industrie chimique, à l'heure actuelle, la fixation biologique est encore à l'échelon planétaire beaucoup plus importante que la fixation industrielle. La réduction de l'azote moléculaire en ammoniac, NH3, est une réaction qui est très coûteuse en énergie. Par exemple, il faut 16 molécules d'ATP pour réduire une molécule d'azote. C'est la raison pour laquelle les systèmes efficaces pour la fixation d'azote à l'échelon de la planète sont des systèmes permettant un couplage avec la photosynthèse. Un couplage entre fixation d'azote et photosynthèse, la photosynthèse fournissant l'énergie nécessaire à la réduction de l'azote. Alors, il existe plusieurs systèmes symbiotiques fixateurs d'azote. Celui-là, par exemple, est très utilisé en Asie du Sud pour la fertilisation des rizières. Les plantes actinorhizes, comme l'aulne, sont utilisées pour coloniser des sols très dégradés. Et la symbiose rhizobium-légumineuse est l'association la plus importante d'un point de vue écologique et agronomique. En effet, la famille des légumineuses est une des familles botaniques les plus abondantes, plus de 15 000 espèces. Elle présente une grande diversité morphologique avec des plantes herbacées, des arbustes, des arbres de grande taille. Par exemple, le massif amazonien est essentiellement constituée par des légumineuses de très grande taille. Les légumineuses présentent également une grande diversité écologique et colonisent la plupart des écosystèmes des régions circumboréales jusqu'à l'équateur. Enfin, la famille des légumineuses fournit de nombreuses plantes très importantes d'un point de vue agronomique, comme le soja, l'arachide, le pois, les haricots, luzerne, trèfle, qui constituent des sources de protéines absolument essentielles. Alors, pour ce qui concerne le partenaire bactérien, les rhizobiums ne constituent pas un groupe homogène de bactéries. Ce sont des bactéries qui appartiennent à des groupes bien différents. Il y a des rhizobiums au sens strict, des mésorhizobiums, des cynorhizobiums, des azorhizobiums, des bradyrhizobiums. Donc un groupe très hétérogène, et au sein de chaque groupe, outre les rhizobiums, vous pouvez trouver des bactéries qui n'ont rien à voir avec l'établissement de symbiose, des bactéries pathogènes pour les animaux, pour les végétaux, ou des bactéries ayant d'autres fonctions physiologiques. Alors, le secret de l'efficacité de ces symbioses, c'est l'existence d'organes spécialisés, les nodosités, qui sont de véritables organes, ce ne sont pas des tumeurs. Et ces organes sont reliés aux parties aériennes par des traces vasculaires, hein, l'équivalent chez les plantes de l'appareil circulatoire chez les animaux. Et il existe un échange permanent entre l'organe de fixation d'azote, qu'est la nodosité, et les parties aériennes, siège de la photosynthèse. Un autre avantage de cette symbiose, c'est que les bactéries que vous voyez ici sont situées à l'intérieur des cellules de la plante, elles sont intracellulaires, et donc les échanges de métabolites et de signaux sont grandement facilités par cette endosymbiose. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de bactéries dans une cellule hôte, et en fait, l'intérêt du rhizobium dans cette symbiose, c'est qu'un tout petit nombre de bactéries, quelques dizaines de bactéries qui sont à l'origine de la formation de la nodosité, vont être à l'abri dans la nodosité qui constitue une espèce de niche où seuls les rhizobiums peuvent se développer, nourris par la plante hôte, et ces quelques dizaines de bactéries vont donner des dizaines de millions de bactéries à l'intérieur d'une nodosité. Donc la bactérie a certainement un avantage à établir la symbiose, et la plante aussi un avantage, parce que si l'azote est limitant dans le sol, le rhizobium va conférer à la plante un avantage sélectif important en lui fournissant de l'azote assimilable. Oui, je voulais préciser que ces nodosités que vous venez de voir, à elles seules, produisent chaque année au moins autant d'ammoniac que l'ensemble de l'industrie des engrais azotés sur la planète. Ce sont donc des organes extrêmement importants, et il est indispensable de comprendre quels sont les mécanismes génétiques et moléculaires qui permettent la formation de ces organes essentiels. Alors, les recherches des 10 dernières années ont permis de mettre en évidence l'existence d'un dialogue moléculaire entre les partenaires symbiotiques. En fait, la symbiose, c'est deux organismes qui interagissent, chacun a un programme génétique. À l'intérieur du programme génétique de chaque organisme, il y a un sous-programme qui est un programme symbiotique, et la fonction de l'autre partenaire de la symbiose est de fabriquer des molécules signales qui vont activer l'expression de ce programme génétique. Nous allons le voir en détail. Alors, l'analyse génétique des rhizobiums a permis de découvrir qu'il existe des gènes de nodulation qui contrôlent la reconnaissance spécifique de la plante, la formation des nodosités. Et parmi ces gènes, vous voyez qu'il y a des gènes en rouge ici, les gènes NOD ABC, qui sont vraiment présents chez tous les rhizobiums. C'est une espèce de signature. En fait, toute bactérie qui a des gènes NOD ABC fonctionnels est un rhizobiome. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui est capable de former des nodosités sur des légumineuses. Ces gènes sont essentiels, et si vous mutez un de ces gènes, la bactérie devient totalement incapable d'établir une symbiose avec les plantes. Alors, outre ces gènes communs, il existe chez chaque espèce de rhizobium une combinaison de gènes nodes spécifiques qui sont impliqués dans le contrôle de la spécificité d'hôte. Parce que chaque rhizobium a une spécificité d'hôte donnée. C'est-à-dire qu'une espèce de rhizobium est capable, par exemple, de faire des nodosités sur le soja, mais pas sur la luzerne, le trèfle et le pois, etc. Donc, ces gènes-là, en rose, en vert, etc., sont des gènes qui contrôlent la spécificité d'hôte. Et puis en jaune, des gènes qui sont présents chez tous les rhizobiums et qui sont des gènes régulateurs. Alors, quelle est la fonction de ces gènes régulateurs? Ils codent pour des protéines qui sont des récepteurs de signaux symbiotiques synthétisés par la plante. Alors, la plante, au cours de son développement, au niveau de la rhizosphère, sécrète des flavonoïdes, ou des bétaïnes, mais surtout des flavonoïdes, qui sont des molécules signales qui vont activer l'expression des gènes symbiotiques de la bactérie. Alors, le récepteur reconnaît de façon spécifique le signal envoyé par la plante hôte. Si ce n'est pas la plante hôte, le récepteur ne va pas reconnaître le bon signal et ne va pas activer les gènes. Si le signal est correct, il y a activation de cette protéine qui va mettre en route l'expression des gènes nodes structuraux. Alors, voilà une première étape de ce dialogue moléculaire. Et cette première étape est spécifique, c'est-à-dire que ces gènes nodes D, qui codent pour les récepteurs spécifiques des signaux de la plante, jouent déjà un rôle dans la reconnaissance spécifique de la plante. Alors, quelle est la fonction des gènes nodes? Les gènes nodes codent pour la synthèse de molécules signal, qui vont à leur tour jouer un rôle dans l'activation de l'expression des gènes de la plante. Les gènes communs nodes ABC, qui sont présents chez tous les rhizobiums, déterminent la synthèse du squelette de la molécule, des oligomères de chitine, en jaune, et également le transfert d'un acide gras ici, toujours à la même place, et en bleu, les gènes de spécificité d'hôte qui vont décorer le squelette de base avec des groupes spécifiques, par exemple chez le rhizobium de luzerne, il va y avoir un groupe sulfate, un groupe acétate et puis un acide gras particulier. Et ces substitutions vont jouer un rôle important dans la reconnaissance spécifique de la plante. C'est-à-dire que si vous fabriquez des mutants de rhizobium qui sont incapables de mettre du sulfate ici, eh bien, le rhizobium qui produit ce facteur muté ne sera plus capable de reconnaître la luzerne. Alors, il y a une grande biodiversité de facteurs nodes. Les facteurs nodes ont des structures très différentes. Et les différentes espèces de rhizobium ont des stratégies, ont choisi des stratégies différentes pour décorer les signaux moléculaires qui vont être impliqués dans la reconnaissance de la plante. Une stratégie, par exemple, adoptée par le bradyrhizobium du soja, la bactérie du soja, est de mettre un sucre ici, un fucose, comme décoration du squelette de base du facteur node. Alors que le rhizobium du pois n'a pas de fucose à cet endroit. Alors si on introduit chez le rhizobium de pois un gène de rhizobium de soja qui permet de mettre le fucose à cet endroit, ben, le rhizobium de pois devient capable de faire des nodules sur le soja. Une expérience qui démontre l'importance de ces décorations dans le contrôle de la spécificité d'hôte. Alors, une autre stratégie qui est utilisée par les rhizobiums pour décorer les molécules signales est de synthétiser des acides gras bizarres polyinsaturés qui peuvent porter jusqu'à 4 doubles liaisons ici. Voilà la chaîne d'acides gras avec un certain nombre de doubles liaisons. Et alors, chaque espèce de rhizobium qui a choisi cette stratégie fabrique des acides gras qui peuvent avoir des longueurs de chaîne différentes en C16, C18, C20, et avec des nombres d'insaturations variables, 2, 3 ou 4. Et la structure de ces acides gras, il a été montré qu'elle est essentielle pour la reconnaissance de la plante hôte. Alors là, un schéma pour représenter les hypothèses sur l'évolution des facteurs nodes. Au départ, il y aurait eu un facteur node de structure simple, avec des décorations simples, un acide gras trivial, banal, du métabolisme normal des lipides, et pas de sucre pour la décoration. Et puis au cours de l'évolution, les facteurs nodes sont devenus plus sophistiqués, avec deux stratégies fondamentalement. Pour les rhizobiums qui nodulent les légumineuses tropicales, c'est une stratégie un peu luxuriante qui consomme pas mal d'énergie et qui est fondée sur l'addition de sucre comme décoration, le fucose, l'arabinose. Et la stratégie adoptée par les rhizobiums des légumineuses tempérées est plus économe et consiste à simplement modifier la structure de l'acide gras. Alors voilà un arbre phylogénétique des légumineuses. Là, vous avez les noms des tribus qui constituent l'ensemble de la sous-famille des papilionacées. Et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. C'est pour illustrer la corrélation qu'il existe entre la structure des facteurs nodes et la position phylogénétique des plantes. Les rhizobiums qui font des facteurs nodes avec de l'arabinose vont noduler les plantes appartenant à cette tribu des 16 baniers. Les rhizobiums tempérés qui font des facteurs nodes avec des acides gras très particuliers vont noduler ces légumineuses-là. Et que ces légumineuses-là ? Ce qui suggère qu'au cours de l'évolution, la mutation qui permet de reconnaître la structure de l'acide gras des facteurs nodes n'est apparue qu'une fois dans cette branche phylogénétique. Et il en est de même pour la reconnaissance de l'arabinose sur le facteur node. Il semble que la mutation au niveau de la plante qui nécessite la présence d'un arabinose ne soit apparue qu'une fois au cours de l'évolution. Mais les facteurs nodes ne sont pas simplement des molécules signal impliquées dans la reconnaissance spécifique de la plante. Ce sont également des molécules qui ont une très grande activité biologique. Quand on ajoute ces molécules purifiées à une plantule de légumineuse, on provoque la formation de nodosités qui ont une anatomie, des structures tout à fait analogues à l'anatomie des nodosités normales induites par les bactéries. Et l'induction de la formation de ces organes peut être obtenu à des concentrations extrêmement faibles, de 10⁻⁹ à 10⁻⁰ molaires, hein, des concentrations pico à nanomolaires, c'est très très faible. Ce sont des molécules extrêmement actives et extrêmement spécifiques et qui provoquent chez la plante toute une série de réponses, parce que vous imaginez bien que pour déclencher un programme d'organogénèse aussi complexe, il faut être capable de modifier profondément l'expression du programme génétique de la plante, provoquer des remaniements du cytosquelette, l'activation de toute une série de gènes symbiotiques, etc. Donc ces facteurs nodes ont une très grande activité biologique. Et ils activent le programme symbiotique des légumineuses hôtes. Alors dans la deuxième partie de l'exposé, je vais vous décrire les méthodes qui sont utilisées pour identifier le programme génétique symbiose des plantes. Alors on utilise en général deux types d'approches, les approches génétiques et plus récemment les approches génomiques. Alors pour ce qui concerne les approches génétiques et génomiques aussi d'ailleurs, vous savez que les biologistes utilisent des systèmes modèles. L'utilisation de systèmes modèles, judicieusement choisis, permet de concentrer les efforts de la communauté scientifique internationale sur un petit nombre de modèles et d'étudier ces modèles à fond. Alors, pour les biologistes des plantes, la plante modèle, c'est Arabidopsis thaliana, une petite crucifère qui a un génome de très petite taille, qui est très commode à manipuler et qui a permis au cours des 10 dernières années à la biologie végétale de réaliser des progrès absolument fantastiques, absolument extraordinaires. Malheureusement, cette petite crucifère n'est pas capable d'établir des symbioses ni avec les rhizobiomes pour former les nodosités, ce qui est normal puisque ça c'est essentiellement les légumineuses qui sont capables de ça, mais Arabidopsis n'est pas capable non plus d'établir des symbioses avec les champignons mycorhiziens. Et les champignons mycorhiziens, c'est un autre type d'endosymbiose extrêmement important. En effet, les mycorhizes jouent un rôle, elles sont très répandues, la plupart des plantes ont des mycorhizes, hein, les céréales, la plupart des plantes cultivées, et ces mycorhizes jouent un rôle important dans la nutrition phosphatée des plantes et aussi dans la résistance à la sécheresse. Donc Arabidopsis thaliana n'est pas capable d'établir de telles symbioses et il fallait trouver une autre plante modèle. Alors, une petite légumineuse qui s'appelle Medicago troncatula a été proposée comme plante modèle pour l'étude des symbioses. Alors, l'avantage de cette espèce, c'est qu'elle a un génome de taille relativement restreinte pour une légumineuse, tout est relatif, et elle est transformable génétiquement de façon efficace par Agrobacterium, par différentes méthodes, et il est clair que la transformation génétique des plantes, c'est un outil essentiel pour analyser les mécanismes génétiques et moléculaires à la base du fonctionnement de ces plantes. Alors revenons aux facteurs nodes et à leurs effets sur les plantes hôtes. Alors la bactérie arrive à proximité de poils absorbants de la racine et elle fabrique ses facteurs nodes. Alors la plante reconnaît les facteurs nodes, mais l'information qui est présente ici à la surface doit pouvoir être transduite vers le noyau pour modifier l'expression du génome de la plante hôte. C'est-à-dire que les gènes symbiotiques, le programme symbiotique, se mettent en route. Pour qu'ils se mettent en route, il faut que les cellules reconnaissent la présence du facteur node, qui est le signal déclenchant. Donc il y a toute une cascade de transduction du signal qui va aller vers le noyau de la cellule et également cette information, il va falloir qu'elle soit transduite dans d'autres cellules à distance, dans des tissus plus profonds de la racine, parce que l'on sait que pour que le programme d'organogénèse de la nodosité se mette en place, ce ne sont pas que des cellules superficielles qui doivent être activées, mais également des cellules profondes situées à l'intérieur de la racine. Et d'autre part, l'information de la présence des facteurs nodes, il n'y a pas que le noyau qui doit être informé pour modifier l'expression génétique. Il faut que la cellule, le cytoplasme, soit également informé de cette présence de la bactérie. Parce que le cytosquelette, qui est l'espèce de squelette cellulaire de la cellule, qui est extrêmement important pour la vie et le développement des plantes, que ce cytosquelette apprenne que la bactérie est là. Et donc, il faut qu'il y ait toute une cascade de transduction des facteurs nodes. Alors, la transduction des signaux, c'est un domaine de la biologie qui est en pleine expansion à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose de très difficile à disséquer, et l'analyse génétique joue un rôle très important dans cette dissection. Alors, nous avons étudié toute une série de mutants de plantes qui ne répondent plus aux facteurs nodes, de tels mutants étant des candidats raisonnables à être affectés dans des gènes impliqués dans la cascade de transduction des signaux nodes. Alors, nous avons identifié 4 gènes, 1, 2, 3, 4, qui sont impliqués dans cette cascade de transduction. Et nous avons été extrêmement étonnés de constater que les mutants qui sont affectés dans les gènes les plus précoces de la cascade de transduction des facteurs nodes, ces gènes-là contrôlent la mycorhisation aussi. Et ils ne contrôlent pas seulement la nodulation, mais également la mycorhisation. Alors, le fait que des gènes contrôlent à la fois la mycorhisation et la nodulation, certains gènes avaient été découverts par des collègues de Dijon, de l'INRA de Dijon, il y a plusieurs années, et leur découverte avait été une très grande surprise, parce que les symbioses bactériennes avec rhizobium et les symbioses mycorhiziennes sont très différentes. Avec la bactérie, d'abord, les symbioses sont très spécifiques. Vous avez vu le rôle des facteurs nodes qui ont des substitutions, etc. C'est une symbiose très spécifique. Il y a la formation d'un organe particulier, la nodosité, alors que les mycorhizes ne sont pas spécifiques, très peu spécifiques, et il n'y a pas de formation d'organes. Donc, au départ, on n'aurait pas pu imaginer qu'il y avait des gènes communs dans ces types de symbioses aussi différents. Eh bien oui, il y a des gènes communs, et certains de ces gènes jouent un rôle dans les mécanismes très précoces de perception des signaux symbiotiques des partenaires. Or ça nous amène à faire l'hypothèse qu'il y a des étapes communes dans la transduction des deux signaux, et on postule l'existence de facteurs MYC qui seraient aux champignons mycorhiziens l'équivalent de ce que sont les facteurs nodes pour les rhizobiums. Alors, à l'heure actuelle, à Toulouse, nous essayons de purifier ces facteurs MYC et de déterminer leur structure pour voir si, par hasard, ils auraient des analogies structurales avec les facteurs nodes. Parce qu'en effet, quand nous avons découvert que les facteurs nodes avaient une structure chitinique, ça a été une très grande surprise. On s'attendait à ce que les facteurs nodes, en fait, ressemblent à des hormones végétales, puisqu'ils induisent une organogénèse végétale. Et ça a été très étonnant de constater que c'était des oligomères de chitine, parce que les bactéries ne font pas de chitine, et les plantes ne font pas de chitine. Or, pourquoi des bactéries qui dialoguent avec des plantes utiliseraient la chitine? Alors, une hypothèse qu'on peut raisonnablement faire maintenant, étant donné que, vraisemblablement, il y a des signaux symbiotiques de champignons qui partagent les étapes de transduction avec des signaux bactériens, c'est que la symbiose rhizobium légumineux se serait développée à partir d'un programme symbiotique préexistant correspondant au programme de symbiose mycorhizienne. Et à partir de cette dérive du système symbiotique nodule à partir du système plus ancien de mycorhize, il y aurait certaines étapes qui auraient été conservées, et peut-être que la structure chitinique des facteurs nodes s'expliquerait par le fait que les champignons, eux, synthétisent abondamment de la chitine, et que les bactéries imiteraient des signaux symbiotiques qui, en fait, seraient d'origine fongique. Alors, est-ce qu'on peut utiliser certains des progrès réalisés récemment dans la connaissance de la symbiose de point de vue pratique dans l'agriculture? Alors, voilà un terrain d'expérience qui a été réalisé dans des sols où il y a peu de rhizobium de soja. Alors, les plantes que vous voyez, c'est du soja. Voilà des parcelles témoins. Vous voyez des sojas palichons hein, qui ont des carences en azote évidentes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de rhizobium et donc il n'y a pas de nodosité fixatrice. Alors, si on enrobe les graines de soja avec des rhizobiums, les rhizobiums vont coloniser le système racinaire du soja, induire la formation de nodosités fixatrices d'azote, et ces nodosités vont nourrir en azote les plantes. Alors, vous voyez l'effet spectaculaire de l'addition des rhizobiums autour des graines de légumineuses. Alors, cette technique, elle est très ancienne. Il y a des décennies qu'on inocule les graines de légumineuses avec des rhizobiums dans toutes les régions du monde, dans les pays industriels comme dans les pays en voie de développement, pour la bonne raison que mettre des rhizobiums sur des graines, ça coûte infiniment moins cher que de mettre des engrais azotés, sans tenir compte des effets sur la pollution de l'environnement par les nitrates. L'inoculation des graines de légumineuses se fait à l'échelon planétaire sur des dizaines de millions d'hectares. C'est vraiment une pratique très, très générale. Alors, les questions que nous nous posons à l'heure actuelle, c'est est-ce que l'addition à l'inoculum bactérien de signaux symbiotiques type facteur node ou type flavonoïde, c'est-à-dire des signaux bactériens de plantes ou de bactéries, est-ce que l'addition de ces signaux accélérerait la formation des nodosités dans les champs? On a montré que l'addition de signaux mycorhiziens accélère la formation des nodosités en conditions de laboratoire. Il a été montré par une équipe suisse que l'addition de facteurs nodes stimule de façon très efficace la formation de mycorhizes chez le soja en conditions de serre. Mais à l'heure actuelle, il y a des essais en plein champ pour savoir si ça marche aussi dans des conditions normales d'agriculture. Bien, mais les approches génétiques ne permettent d'identifier qu'un petit nombre de gènes, au mieux quelques dizaines de gènes. Une révolution est en train de se développer à l'heure actuelle en biologie, c'est le développement d'une nouvelle discipline, la génomique, dont vous avez déjà dû entendre parler au cours de conférences précédentes dans ce cycle, je pense, notamment par Antoine Danchin. Alors, cette génomique a pour objet d'étudier globalement les gènes des organismes. Pas seulement quelques gènes comme les approches génétiques classiques, mais d'identifier et d'essayer d'analyser la fonction de milliers de gènes à l'intérieur d'un organisme. Alors, toute une série de méthodes nouvelles se sont développées, utilisant les progrès des méthodes de miniaturisation, des progrès de la robotique, de l'automatisation des procédés, des progrès de la bioinformatique, des progrès dans le séquençage de l'ADN, etc. Et une branche de la génomique est la génomique fonctionnelle, qui est fondée notamment sur l'utilisation de puces à ADN. Or, ces puces, ce sont des petites lames de verre de 1 à 2 cm de côté sur laquelle des robots déposent des fragments d'ADN, des milliers de fragments d'ADN. Et par addition de systèmes qui rendent les molécules d'ADN capables de s'hybrider, qui leur confèrent une couleur par fluorescence, il est possible de mesurer par des méthodes qui se généralisent maintenant dans les laboratoires, il est possible de mesurer l'expression de milliers de gènes et de comparer l'expression de milliers de gènes. Alors, il y a aux États-Unis et en Europe plusieurs projets de génomique fonctionnelle de la légumineuse modèle, Medicago Truncatula, qui visent à identifier de façon systématique les gènes symbiotiques, alors les gènes de nodulation, les gènes de mycorhization, et puis les gènes qui contrôlent à la fois la formation des nodules et la formation des mycorhizes. Alors, les progrès de la génomique devraient, d'ici quelques années, permettre de bien connaître les programmes symbiotiques des plantes, programmes de nodulation, programmes de mycorhization, et une meilleure connaissance des programmes génétiques nécessaires pour les symbioses devrait permettre d'améliorer les légumineuses pour ce qui concerne la nodulation et l'ensemble des plantes pour ce qui concerne la mycorhization par des méthodes de sélection génétique classique de l'amélioration des plantes, mais faisant usage de ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires. Ce qui n'a rien à voir avec les OGM, il n'y a pas de transformation génétique, on exploite les croisements classiques fondés sur la biologie florale normale des plantes, mais on sélectionne efficacement dans les plantes recombinantes obtenues naturellement les bons recombinants en utilisant des marqueurs moléculaires. Alors pour terminer, je voudrais discuter de perspectives concernant les possibilités de transférer ou d'exploiter une fixation d'azote chez les plantes autres que les légumineuses, c'est-à-dire chez les céréales. Est-ce que vous pouvez me mettre au point, s'il vous plaît ? Tout le monde arrive à lire ? Ok. Alors, classiquement, on distingue trois stratégies pour le transfert de l'aptitude à fixer l'azote chez les céréales. La première, c'est la recherche de bactéries fixatrices d'azote, c'est-à-dire possédant les gènes NIF, hein, qui sont les gènes qui codent pour les enzymes responsables de la fixation d'azote. Rechercher des bactéries NIF, donc, capables de se multiplier dans la rhizosphère, c'est-à-dire autour des racines, des céréales, ou même de se multiplier dans les espaces intercellulaires des racines, ou peut-être même des parties aériennes des céréales. Bon, alors, les recherches qui ont été réalisées dans cette orientation depuis quelques années ne sont pas encourageantes, malheureusement. Et les quantités d'azote fixées sont de l'ordre du kilogramme, d'azote par hectare, ce qui est vraiment très peu, et ce qui ne permettrait pas de diminuer la fertilisation azotée par utilisation d'engrais chimiques, ce qui est l'objectif. Des calculs théoriques aussi ne permettent pas d'être très optimistes, c'est-à-dire que, vu la compétition qui existe entre micro-organismes au niveau de la rhizosphère, vu finalement, probablement, la faible efficacité des échanges métaboliques entre les bactéries de la rhizosphère, même si elles sont dans les espaces intercellulaires, et les plantes, à la différence de la nodosité, qui est vraiment un organe spécialisé où les plantes sont à l'abri de la compétition, bon, il y a peu de chances que cette stratégie puisse déboucher un jour sur des fixations très importantes, sauf dans des cas particuliers, comme par exemple la canne à sucre, qui est une graminée particulière qui accumule le sucre dans ses traces vasculaires. Et là, il y a une grande quantité d'énergie et des bactéries fixatrices d'azote peuvent utiliser cette énergie pour fixer de l'azote et fixer des quantités d'azote significatives. Mais c'est vraiment un cas particulier. Alors, la seconde stratégie, dont on parlait beaucoup dans les journaux, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, le transfert de gènes NIF bactériens chez les plantes par génie génétique. En fait, les journalistes se sont beaucoup intéressés à cette possibilité, à un moment, mais pas tellement les chercheurs. Et à ma connaissance, il n'y a que deux chercheurs sur la planète, en Angleterre, qui, depuis quelques années, se sont mis à explorer cette possibilité. Ils ont obtenu d'ailleurs un résultat encourageant. Ils ont introduit un gène NIF dans un chloroplaste par génie génétique et ce gène s'exprime, il est fonctionnel, ce qui est encourageant. Mais le projet d'introduire 15 à 20 gènes bactériens chez les plantes, permettre leur intégration l'intégration de leur fonctionnement dans la physiologie de la plante et tout ça en tenant compte du fait que la nitrogénase est très sensible à l'oxygène. La nitrogénase, c'est l'enzyme qui est synthétisée codée par les gènes NIF. La nitrogénase est très sensible à l'oxygène, alors il faut trouver des compartiments particuliers dans la plante. Enfin, c'est un projet de génie génétique extrêmement complexe et à très long terme, dans l'état actuel de nos connaissances, en tout cas. Alors, le transfert de l'aptitude à fermer des nodosités avec des rhizobiomes chez les céréales, c'est également un projet extrêmement compliqué. On peut supposer qu'il y a des dizaines de gènes présents chez les légumineuses et qu'il serait nécessaire de transférer chez les céréales pour permettre aux céréales de former des nodosités. Bon, alors on sait maintenant, puisqu'il y a des gènes communs qui contrôlent la mycorhization et la nodulation, qu'il existe en fait certains gènes de nodulation déjà chez les céréales. Puisque les céréales ont des mycorhizes, elles ont donc un programme génétique mycorhization, et certains des éléments de ce programme sont impliqués dans la formation des nodosités, puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des gènes qui contrôlent à la fois la mycorhization et la nodulation. Bon, ceci étant, très vraisemblablement, le nombre de gènes de légumineuses à transférer chez les céréales sera très élevé. Et donc, il s'agit également de projets à très long terme. Alors, la situation, vous allez me dire, est quasiment désespérée pour ce qui concerne le transfert de l'aptitude à fixer l'azote chez les céréales. Eh bien, peut-être pas complètement, parce qu'il existe quand même des systèmes d'endomycorhize qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas liés aux légumineuses ou à une famille botanique particulière, mais qui sont des endosymbioses qui sont capables de s'établir avec pratiquement toutes les plantes. Plus de 80% des espèces de plantes supérieures sont capables d'établir des endosymbioses avec des endomycorhizes. Alors l'endomycorhize a un mycélium qui est à l'extérieur de la racine qui forme une espèce de très grande extension du système racinaire, hein, qui démultiplie la surface du système racinaire dans le sol. Ce mycélium va puiser le phosphore dans le sol et, vous voyez, le champignon se ramifie pour former ce qu'on appelle des arbuscules. Et là, il y a un très grand rapport surface sur volume qui est favorable aux échanges de métabolites entre le champignon et la plante hôte. Et le champignon, dans ces arbuscules notamment, transfère le phosphate à la plante et en échange reçoit de l'énergie du carbone. Bon, et la fixation d'azote dans tout ça? Eh bien voilà, c'est qu'une équipe italienne, récemment, l'équipe de Paola Bonfante à l'Université de Turin, a découvert que dans les champignons mycorhiziens, il y a des bactéries. Chez certains champignons mycorhiziens. Des champignons du genre Gigaspora notamment. Alors, je ne sais pas si vous voyez là des espèces de spores qui sont à la surface de la racine et puis un mycélium. Il faudrait peut-être mettre au point, s'il vous plaît. Voilà, il y a un mycélium de champignons, des grandes spores, comme son nom l'indique, Gigaspora. Et alors, quand on fait des sections dans ces spores et qu'on regarde au microscope électronique, c'est le travail de l'équipe de Paola Bonfante à Turin. Ils ont observé la présence de bactéries, indéniablement, hein, au microscope électronique. Ça ressemble beaucoup à des bactéries. Et ils ont observé également dans les mycéliums à l'intérieur des racines la présence de ces bactéries, entourées par une espèce de membrane périsymbiotique du champignon. Bien, il y a donc des bactéries qui semblent vraiment intracellulaires, endosymbiotiques chez les champignons mycorhiziens. Alors ça, c'est nouveau, c'est très intéressant. Et en utilisant des méthodes d'amplification d'ADN, cette équipe de Turin a amplifié le génome de cette bactérie pour savoir à quel genre, à quel groupe bactérien cet organisme appartenait. Et la réponse, c'est que ces bactéries appartiennent au genre Burkholderia. Bien. Il se trouve qu'un certain nombre d'espèces du genre Burkholderia fixent l'azote dans la rhizosphère des plantes. D'où l'idée de voir si, par hasard, il n'y aurait pas des gènes de fixation d'azote chez les bactéries endosymbiotiques des champignons mycorhiziens. Alors, par amplification d'ADN, cette équipe a recherché des gènes de fixation d'azote et ils ont trouvé des gènes de fixation d'azote qui ont une structure tout à fait analogue à la structure des gènes fonctionnels des bactéries fixatrices d'azote. Il y a les trois gènes HDK qui codent pour la nitrogénase. Et la conclusion, c'est qu'il est raisonnable de faire l'hypothèse que ces bactéries sont capables de fixer l'azote. Alors, nous collaborons à l'heure actuelle avec cette équipe et par différentes méthodes, nous essayons de répondre à cette question. Mais quelle que soit la réponse concernant cette souche-là, je pense que la découverte de cette équipe italienne que chez les champignons endomycorhiziens, qui sont capables d'établir des symbioses avec la plupart des plantes cultivées, le blé, le maïs, le riz, le tournesol, etc., il existe des bactéries qui ont des gènes de fixation d'azote. Donc, vraisemblablement, il y en a qui doivent fixer l'azote de façon à peu près efficace. Et je pense vraiment que cette découverte ouvre des perspectives tout à fait nouvelles et intéressantes. Je pense que dans les années qui viennent, il va falloir sélectionner des souches de champignons mycorhiziens présentant des bactéries ayant une bonne aptitude à la fixation d'azote, faire un grand travail de sélection sur des milliers de souches de champignons mycorhiziens isolés à partir de plantes cultivées dans des sols où il n'y a pas eu de fertilisation azotée ou phosphatée depuis très longtemps, et essayer de trouver un système qui aurait le très gros avantage par rapport à la symbiose rhizobium légumineuse de pouvoir avoir un intérêt très général et être appliqué à la plupart des plantes cultivées. Alors pour terminer, c'est la dernière diapo, c'est une espèce d'hymne aux endosymbioses. Alors, vous savez certainement que les mitochondries qui nous permettent de respirer, c'est-à-dire de réaliser la phosphorylation oxydative, de former de l'ATP, de l'énergie grâce à la respiration en présence d'oxygène, ces mitochondries ont très vraisemblablement une origine endosymbiotique, c'est-à-dire qu'il y a fort longtemps, il y a plus d'un milliard d'années, des cellules eucaryotes, c'est-à-dire possédant un noyau, ont établi des endosymbioses avec des bactéries aérobies et ont acquis, grâce à ces endosymbioses, l'aptitude à respirer. Il existe à l'heure actuelle des cellules eucaryotes anaérobies, des amibes, des protozoaires qui vivent dans l'intestin dans des conditions tout à fait anaérobies, qui n'ont pas de mitochondries. Il y a de telles amibes qui ont, à l'heure actuelle, des endosymbioses avec des bactéries aérobies et qui arrivent à pousser en présence d'oxygène. Donc il y a les intermédiaires, à l'heure actuelle, de ce qui devait exister il y a fort longtemps. Pour ce qui concerne la photosynthèse, qui est réalisée par les chloroplastes, il s'agit très vraisemblablement aussi de l'acquisition définitive d'un système endosymbiotique, et très vraisemblablement, la plupart des données moléculaires disponibles à l'heure actuelle sont en faveur d'une origine endosymbiotique des chloroplastes. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, là encore, à l'origine des végétaux, du règne végétal, une endosymbiose avec des cyanobactéries photosynthétiques a permis le développement d'organites permettant la photosynthèse chez les organismes supérieurs. Alors, inutile de dire que l'acquisition des mitochondries des chloroplastes a constitué au niveau de l'évolution une véritable révolution, qu'il n'y aurait pas d'organismes supérieurs à la surface de la planète, nous n'existerions pas s'il n'y avait pas eu ces endosymbioses avec des bactéries. Plus récemment, les légumineuses ont établi des endosymbioses avec des bactéries fixatrices d'azote, c'est ce dont je vous ai parlé au cours de cet exposé, et la découverte de l'équipe italienne suggère qu'il y a un nouveau système de poupées russes d'endosymbiose avec des endomycorhizes endosymbiotiques et à l'intérieur des endomycorhizes, des bactéries endosymbiotiques possédant les gènes NIF, ça on en est sûr, et fixatrices d'azote, on devrait le savoir dans les mois qui viennent. Alors, j'espère que le 21e siècle verra une meilleure exploitation par les généticiens des plantes de l'aptitude des plantes à établir des symbioses. Au cours des 50 dernières années, la recherche agronomique et l'amélioration des plantes en général a dû, et c'est absolument indispensable, concentrer ses efforts sur l'amélioration de l'aptitude des plantes en fait à mieux utiliser les engrais chimiques, phosphatés et azotés, et il fallait le faire. Mais à cause de pressions liées à la démographie humaine et à la nécessité de développer des méthodes agricoles durables, respectueuses de l'environnement, il sera nécessaire à l'avenir de mieux exploiter les symbioses pour diminuer l'effet de serre, parce que produire des engrais azotés, il faut 2 tonnes de fioul pour faire 1 tonne d'engrais azotés, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour l'effet de serre, c'est assez, à terme, c'est extrêmement négatif. Et il y a aussi des effets de pollution liés aux nitrates, dus à une utilisation excessive des engrais azotés, qui ont des effets négatifs. Donc ce que j'espère, c'est que l'amélioration des plantes, au cours des décennies à venir, outre l'exploitation de l'aptitude des plantes à utiliser les engrais, qui restera bien sûr quelque chose d'essentiel, exploitera mieux, grâce au développement de la génomique, l'aptitude des plantes à établir des endosymbioses pour la nutrition phosphatée et azotée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Eh bien, merci beaucoup et maintenant, nous allons passer aux questions. Là, d'abord. Là-bas.
Merci. Pardon. Bon, excusez-moi, mon baccé, il a plus d'un quart de siècle, alors je... Bon.
Le mien aussi.
J'ai eu un baccé, celui-là, ça. J'ai une question à 3 niveaux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un acide gras insaturé ? De quoi il est insaturé ? Ensuite, pardon, quels peuvent être les effets économiques des symbioses ? Je pense à la productivité et tout comme ça. Est-ce que c'est intéressant économiquement ? Et un peu plus pointu, il faut que je lise, excusez-moi. Est-ce qu'il existe d'autres symbioses rhizobiomes légumineuses que la symbiose intracellulaire ? Je pense à ce niveau-là, à la symbiose à endo-machin-chose. Endomycorhize.
Ok.
Non, merci.
Alors, première question, les acides gras saturés, ben, les doubles liaisons, c'est l'insaturation, c'est en hydrogène. Alors, la seconde question, c'est l'intérêt agronomique. Ben oui, les légumineuses, les Romains avaient déjà constaté, hein, dans il y a des écrits de Tite Live, qui notent que la culture de légumineuses, dans des rotations en agriculture, a un effet très positif sur la fertilisation. Donc la culture des légumineuses depuis des siècles, il avait été observé dans plusieurs civilisations que ça avait un effet bénéfique sur les plantes qui venaient après, qui bénéficiaient de l'azote fixé en fait par... On ne savait pas que c'était à cause de l'azote à l'époque, mais l'effet bénéfique avait déjà été observé. Et les légumineuses sont utilisées de façon importante en agriculture. Alors, plus ou moins suivant les régions du globe. Aux États-Unis d'Amérique, les légumineuses sont cultivées sur plus de 20% des superficies cultivées. Plus de 20%, avec le soja et la luzerne, notamment. L'arachide aussi. Alors qu'en Europe, malheureusement, à mon avis, les légumineuses correspondent à moins de 5% des superficies cultivées. Alors la troisième question concernait les rhizobiomes. Est-ce qu'il y aurait des rhizobiomes autres ? Bon, les rhizobiomes, c'est un groupe extrêmement hétérogène. Dès qu'une bactérie a des gènes de nodulation, on l'appelle rhizobiome, quelle que soit sa position phylogénétique. Hein, oui. Bon, alors... Un rhizobiome qui ne ferait pas de nodules sur une légumineuse, on ne saurait pas trop que c'est un rhizobiome, parce que la définition pratique des rhizobiomes, c'est qu'ils sont capables de faire des nodules sur les légumineuses. Parce qu'en fait, ça correspond à des groupes de bactéries très, très, très variés. Alors, parmi les bactéries du sol, il y a des bactéries fixatrices d'azote qui sont capables d'établir des relations d'associations avec des plantes, oui, mais l'efficacité de ces associations est faible parce que il n'y a pas d'échange métabolique aussi intense que lorsqu'il y a un organe comme la nodosité spécifique pour ça. Cet organe, il a une anatomie particulière pour favoriser les échanges métaboliques entre la nodosité qui fixe l'azote et les parties aériennes. Donc il y a des échanges métaboliques qui sont très bien organisés. Et aussi, ce qui est important, c'est que dans la nodosité, les rhizobiums sont à l'abri de la compétition. Il n'y a que des rhizobiums. Il y a quelques dizaines de rhizobiums au départ, ils se multiplient. Il y a des millions de bactéroïdes dans une nodosité, mais il n'y a pas d'autres bactéries. Et si bien que les rhizobiums dans la nodosité se comportent comme des organelles de plantes qui sécrètent de l'ammoniac, parce que l'azote qui est fixé n'est pas utilisé pour leur croissance, comme s'ils devaient lutter dans la compétition avec d'autres organismes, ils peuvent sécréter plus de 80% de l'azote qu'ils fixent pour le donner à la plante. Donc, les systèmes auxquels vous faisiez allusion, dans votre troisième question, d'associations non endosymbiotiques entre une bactérie fixatrice et une plante, c'est peu efficace. C'est peu efficace parce qu'une bactérie fixatrice, ça coûte très cher en énergie, la fixation d'azote, et elle ne peut pas se permettre de donner son azote à la plante s'il faut qu'elle se batte dans la compétition dans la rhizosphère avec les millions de bactéries qui sont autour, quoi.
Le micro.
L'exploitation génétique en Amérique, l'exploitation génétique de plantes en Amérique pour mondialisation, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Et est-ce qu'il y aura un effet de cette grosse machinerie industrielle? Qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on en a parlé beaucoup.
Les OGM, c'est ça?
Ah ben on a parlé énormément de ces sortes de formations de plantes. Est-ce que vous pourriez nous préciser vraiment ce qu'il en est et si ça peut avoir une influence dans ce marché mondial?
Alors, vous faites l'allusion là aux organismes génétiquement modifiés, hein, les plantes transgéniques. Alors effectivement, il est possible maintenant, grâce au génie génétique, d'introduire par toute une série de procédés relativement simples n'importe quelle séquence d'ADN chez la plupart des plantes. Et donc il est possible d'introduire des gènes originaires de bactéries ou de champignons chez des plantes pour construire des plantes qui pourraient résister à des herbicides, pourraient résister à des insectes, à des nématodes, à des champignons pathogènes, etc. Bon, alors il est clair que à l'heure actuelle, ces méthodes sont utilisées essentiellement par certains groupes, grosses entreprises multinationales, qui ont utilisé ces techniques pour se développer sur le marché des semences. Et c'est vrai que des groupes comme Monsanto, qui étaient des groupes qui étaient surtout des entreprises de chimie, ont misé sur l'utilisation de ces techniques pour conquérir le marché des semences. Et effectivement, ils ont pris une part significative du marché au cours des dernières années par cette stratégie. Il y a en Europe en tout cas un mouvement des consommateurs et des associations de protection de l'environnement puissants qui ont abouti dans la pratique à freiner l'utilisation des plantes transgéniques en Europe et poser un débat sur la nécessaire réflexion sur toutes les conséquences envisageables au niveau biologique, économique, politique, etc., de l'utilisation des plantes transgéniques. Bon, et je pense que le débat se développe correctement en Europe, qu'il va se développer également aux États-Unis. et j'espère que la démocratie fonctionnera.
Vous suivez ça ?
Ça commence. Alors qu'il n'y avait pas du tout de mouvement d'opposition, enfin, au développement de ces méthodes, il y a 5 ans, je dirais. Maintenant, il y a un début de mouvement, de réflexion là-dessus.
Ça concerne le compostage, c'est-à-dire en agriculture dite bio, donc, on utilise des composts. Alors évidemment, on dit que dans le compostage, ça ne pourra jamais nourrir toute la population de la planète, parce que ça demande un certain nombre de... un travail qui est très important, bien qu'on fait aussi de la mécanisation. Alors j'aimerais savoir votre sentiment par rapport au compostage vis-à-vis de la fixation de l'azote. Voilà, c'est un peu la question.
Bon, le compostage est... Non, je pense qu'on a été très loin dans l'utilisation de l'agrochimie, quoi. Que cette orientation des sociétés industrielles, je pense que ça correspond à une période historique, disons, hein, de la recherche agronomique et de la situation économique et sociale en Europe, aux États-Unis. Bon, où le développement des recherches agronomiques et de l'agriculture s'est fait en donnant une place très grande aux produits chimiques. Bon, je pense que sous la pression de différentes organisations, de consommateurs, etc., l'avenir verra un développement plus équilibré qui tiendra compte de l'utilisation d'une agriculture plus biologique, d'une meilleure exploitation de la matière organique, d'une meilleure exploitation des symbioses. On continuera certainement à avoir recours aux engrais chimiques parce qu'il y a une croissance de la population humaine qui est très importante. Et s'il n'y avait pas de croissance, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Par exemple, si vous prenez un écosystème en équilibre, dans le massif amazonien, vous avez peu de fixation d'azote, en fait, parce qu'il y a peu d'exportation des productions végétales. Le cycle de l'azote, du carbone, etc., se déroule normalement, et il n'y a pas besoin d'ajouter beaucoup d'azote au système. Bon, mais dans des systèmes où il y a une croissance humaine, bon, ben, il faut produire davantage de protéines pour nourrir les gens, et produire davantage de protéines, il faut de l'azote. Alors, une partie de l'azote peut être utilisée par matière organique, par compostage, etc. Une partie de l'azote pourrait être obtenue par fixation biologique, mais je pense qu'il y aura pendant encore, tant que la population humaine sera en croissance, et il faudra utiliser également des engrais chimiques. Et, bon, les pesticides... Les pesticides ont des effets négatifs, et je pense que la tendance et le souhait de tout le monde, c'est de diminuer l'utilisation des pesticides. Mais sans utilisation de pesticides, notamment en zone tropicale, enfin, où il y a vraiment beaucoup d'insectes parasites, beaucoup de pathogènes, etc., les rendements seraient encore plus bas. Donc, je pense qu'il faut se diriger vers une agriculture raisonnée, quoi. Intégrant toutes les possibilités pour produire des produits de qualité, développer une agriculture respectueuse de l'environnement, etc., intégrant toutes les possibilités, l'agriculture biologique, mais aussi chimiques pendant un certain temps.
Une autre question ?
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais c'est vrai, mais le problème, c'est en agriculture, c'est une garantie de reproductibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des risques quand il faut nourrir des millions de gens, que tout d'un coup, il y ait une épidémie qui fasse que les rendements soient de 50% inférieurs, quoi. Et bon, la lutte biologique, à l'heure actuelle, elle est sûrement... Je l'utilise, moi, pour mes lauriers roses, j'ai mis des coccinelles, ça marche très bien. Mais je pense qu'à l'échelon planétaire, ce que l'on sait à l'heure actuelle de ces procédés ne garantirait pas l'obtention de rendements garantis partout. Et il y aurait des risques qui est difficile de prendre, quoi.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez ouvert à la fin, là, les perspectives des techniques symbiotiques sur l'amélioration des rendements en céréales, enfin, l'amélioration de la fixation de l'azote sur les céréales. Et un autre lien possible avec l'effet de serre. Aujourd'hui, on a le lien que vous avez signalé, plus on met d'engrais azotés, et plus évidemment il faut de l'énergie pour les fabriquer, etc. Il y a un autre lien, on commence à utiliser maintenant une échelle pas très grande, mais à fabriquer des biocarburants aux États-Unis, au Brésil, en France, il y a quelques dizaines de milliers d'hectares de céréales qui maintenant servent à faire de l'éthanol transformé en ETBE et donc en essence. Est-ce que, et ma question est la voilà, est-ce que par l'amélioration des techniques symbiotiques sur les céréales, on pourrait espérer augmenter les rendements de céréales à un point où les biocarburants se développeraient sur une base, je dirais, rationnelle. Ce qui permet évidemment, au point de vue effet de serre, un gain considérable.
Là, je pense ne pas avoir la compétence pour répondre de façon satisfaisante à cette question. Bon, il y a peut-être dans l'assistance des gens qui ont plus de compétences. Georges, peut-être, non ? Georges, non, tu aurais.
Je pense qu'effectivement, le facteur limitant pour les biocarburants, c'est les rendements, que ce soit du colza ou que ce soit du blé. Et pour augmenter ces rendements, malheureusement, il faut augmenter les quantités d'azote qu'on fournira à ces cultures. Alors qu'on les augmente. Le facteur limitant pour la valeur économique, si vous voulez, d'un biocarburant, c'est malheureusement encore actuellement un défaut au niveau du rendement des plantes qui peuvent les fournir. Il faudrait, entre guillemets, doubler les rendements de colza et augmenter je ne sais de combien les rendements de blé pour tirer de ces plantes des carburants qui est un prix compétitif vis-à-vis du pétrole. Donc, comment augmenter ces rendements sinon en augmentant l'azote ? Je ne pense pas que la fixation soit suffisante à elle seule pour augmenter ces rendements. Il faudrait aussi y ajouter un complément d'azote chimique.
Un complément de quoi ?
D'azote
d'engrais chimique.
Hélas, nous allons devoir arrêter le débat.